Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Excuse-moi Damien, bonjour Damien. Non, c'est quand tu donnes les coordonnées de la radio, ça paraît vachement long quoi. Ça fait rigolo un peu. Mais bon, nos auditeurs, bonjour, bonjour mes chéris, les auditeurs connaissent. Donc bon, moi ça m'amuse parce que, je sais pas, ça fait rigolo. Mais ils connaissent, donc il n'y a pas de souci. Voilà.
Alors, on vient présenter les films qui sortent cette semaine. On fait une liste non exhaustive des films qui sortent. C'est ta sélection. Et commence avec un film d'animation qui s'appelle La vie de château. Oui. C'est un film de réalisation française.
Oui, oui, oui. C'est une co-réalisation d'ailleurs de Nathaniel H. Limy, qui est un réalisateur scénariste français, oui. Et puis Clémence Madeleine Perdria, qui est une réalisatrice, scénariste, adaptatrice française, voilà. Elle a 6 années de carrière quand même, et 6 tournages à son actif. Alors lui, Nathaniel Ailemi, là, il voulait être inventeur quand il était jeune. En fait, il est illustrateur, directeur artistique, réalisateur, scénariste, c'est pas mal non plus quand même, à la place de l'inventeur. Et puis après tout, il peut inventer des petites choses. D'ailleurs, il est assez... quand il est interviewé, il est assez marrant, ce monsieur. Il nous dit qu'à l'école, bon, il voulait être inventeur, donc faire plein de choses, mais il était meilleur en dessin qu'en mathématiques. Ce qui fait que finalement, ben, il a fait une école d'art. Voilà. C'était peut-être plus facile que d'aller dans une branche scientifique où il y a beaucoup de maths et tout ça, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il n'est pas malheureux du tout avec ce qu'il fait. Donc, La vie de château, ben, c'est une animation, hein. Une animation, c'est pour la famille. Donc, tu l'as dit, c'est français. À partir de 11 ans, hein. 8-11 ans, quand même. Hein. 8-11 ans. Ma petite copine, Naya, ça ferait un peu juge, je pense. Elle est encore tout petite. Non, parce qu'il y a des petites choses à comprendre, c'est peut-être pas évident. Ça dure que 48 minutes. Enfin, c'est déjà pas mal, d'ailleurs. Hein. Et c'est l'histoire d'une petite fille timide, Violette. Elle a 8 ans. Elle perd ses parents dans un attentat à Paris. Désormais, elle vivra avec son oncle Régis, agent d'entretien au château de Versailles. Violette le déteste. Elle trouve qu'il pue. Alors, elle décide qu'elle ne lui dira pas un mot. La petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil. Alors, les voix, alors on a des acteurs qu'on aime beaucoup. Il y a Charlotte Rampling. Et oui, Frédéric Pierrot, ils ont tous beaucoup de talent. Anne Alvaro, il y a Lucas Viguier. Bon, on les connaît, hein, ce sont des comédiens de grand talent. Voilà. Et en fait, il y a en complément deux autres petits courts-métrages, hein, en complément de La vie de château. Alors, on a en complément de programme, on a Parapluie. Au pluriel, d'ailleurs. Hein. C'est pour les enfants de 8-11 ans également. C'est d'Alvaro Robles et de José Prat. C'est réalisé en 2020. C'est espagnol et français, hein, puisque Alvaro Robles est un réalisateur espagnol. Ce qui dure 12 minutes, quand même. C'est pas si mal. Dans un village perdu où la pluie ne s'arrête jamais. Kina, 6 ans, passe ses journées à jouer avec insouciance, bien à l'abri, sous la barbe parapluie hein, de son père. C'est-à-dire son père, il a une grande barbe et ça lui sert de parapluie, une grande barbe un peu raide comme ça, qui lui sert de parapluie. Une nuit, Nana, sa chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kina devra embarquer dans une aventure à la découverte d'elle-même et affronter sa plus grande peur, la pluie. Alors voilà, c'est le thème, c'est aventure, affronter ses peurs, grandir, hein, etc. Quoi, c'est ça. Hein. José Prat, au fait, c'est un illustrateur storyboarder, lui. Et puis l'autre complément, donc l'autre court-métrage, il dure 8 minutes, toujours pour les enfants de 8-11 ans. C'est de Yula Aronova. Aronova. C'est français et russe, puisqu'elle est d'origine russe. Hein. Yula Aronova, enfin, on s'en doutait un petit peu. En prononçant son nom, perché sur sa tour de guet, un pompier. Ça s'appelle pompier. Le titre, c'est pompier. Perché sur sa tour de guet, un pompier scrute la ville, prêt à braver tous les dangers. Mais les rues sont calmes et paisibles. Il n'y a jamais d'incendie ici. Désespéré, le pompier est prêt à renoncer à exercer son métier. Mais un jour, il rencontre une femme qui brûle d'amour pour lui. Alors, il retrouve un sens à sa vie. Voilà, c'est le thème amour, identité, métier, voilà. Alors, Yula Aronova, réalisatrice, scénariste, décoratrice, graphiste. Elle fait des voix également, elle a 38 ans. Deux très jolis courts-métrages, donc en complément de La vie de château.
Et on écoute la bande-annonce de La vie de château.
Oui, merci.
Ça arrive là maintenant. Sur Radio Entre deux Mers, La vie de château.
Oui. Ah bon? Encore?
Vous hébergez une pupille de la nation maintenant. Ça ne peut pas durer comme ça.
Oui, ben je fais ce que je peux. Violette, qu'est-ce que tu fais là?
Lâche-moi.
C'est qui le courage qui pue?
C'est mon oncle Régis.
T'es chez lui maintenant?
Oui.
Mais je vais rentrer dans mon vrai chez moi.
Voilà la petite bande-annonce musicale de La vie de château.
Voilà La vie de château. En fait, il y a deux fillettes en fait dans le parce que le Clémence Madeleine Perdria, elle a bien réfléchi et puis elle a revu Mon voisin Totoro, qui était un film qui était sorti en 1999, une animation de Hayao Miyazaki. On a déjà parlé de lui, d'ailleurs. On a déjà réalisateur japonais. Il a 80 ans maintenant. Son film, d'ailleurs, Mon voisin Totoro, qui est formidable, a été repris en juin 2018. Et puis, alors elle dit, voilà, dans Mon voisin Totoro, il y a deux fillettes qui expérimentent la peur de la perte de leur mère. Et il y avait aussi La nuit du chasseur. Ça, c'est autre chose, La nuit du chasseur. C'est un film de Charles Laughton, qui est un réalisateur britannique, qui est sorti en 1956, qui a été repris, d'ailleurs, en avril 2011. C'était avec... oh oui, il y avait Robert Mitchum et Shelley Winters. Un très, très grand film. Où, pareil, quoi, c'est la mère qui meurt. Elle est tuée et il y a deux enfants, deux petits-enfants, qui vont, à partir de là, être chassés par un affreux et qui vont... voilà, et qui vont... qui n'ont pas le temps, au départ, de faire le deuil de cette maman qui a disparu et qui vont, peu à peu, pouvoir quand même, un petit peu, se rétablir. Donc voilà, c'est quand même... ce sont des personnages d'animation assez pittoresques. Hein. On n'a pas trop l'habitude de les voir, en fait, ces personnages.
Et donc, ça s'appelle La vie de château. Ensuite, oui. On va retrouver une comédie.
Pardon, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le film évoque les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. C'est ça, hein, où la maman, malheureusement, va mourir. C'est un sujet délicat, mais bon, ça parle de cet événement-là, en fait, cet horrible événement. Oui, ensuite.
Et donc, là, maintenant, c'est une comédie qui sort partout en France aujourd'hui.
Oui.
Et également dans votre cinéma de proximité, le cinéma Rex de la Réole, qui accueille ce film dès aujourd'hui à 14h. Ça s'appelle Délicieux. Et alors, c'est l'histoire du premier restaurant français.
Oui, c'est ça, délicieux, miam miam. C'est délicieux. Oui, ça dure 1h53. C'est mon petit coup de cœur quand même, hein, aussi. En même temps que La vie de château, d'ailleurs. Alors, il y a La vie de château, oui, je n'ai pas dit, mais ils ont eu à peu près une quinzaine de prix quand même. Hein. La vie de château a reçu une quinzaine de prix, le film d'animation. Là, on a une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême 2021 dans la catégorie avant-première. Bah, c'est une comédie en fait historique. Hein. C'est français, c'est belge. Voilà, c'est de Éric Bénard, qui est un réalisateur, scénariste, dialoguiste français. Il a 57 ans, il a 26 ans de carrière, 22 tournages à son actif. On lui doit d'ailleurs, en 2020, on en avait parlé ici, à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers, l'esprit de famille, avec François Berléand, Josiane Balasco. Il avait eu également une nomination d'ailleurs à Angoulême. Et en 2012, il a réalisé « Mes héros » avec Josiane Balasco et Gérard Jugnot. Une nomination également à Montpellier. Alors, Mes héros, moi, je vous conseille, mes chéris, si vous le trouvez, le mettre dans votre vidéothèque. Moi, je l'ai trouvé pas cher du tout. Je le regarde de temps en temps. C'est très, très beau. C'est très, très chouette. Vraiment, Mes héros. Alors, Mes héros, ce sont les parents pour le personnage principal. Il parle de ses parents, voilà, qui sont Josiane Balasco et Gérard Jugnot. Et donc là, ça se passe pas aujourd'hui. Hein. On est à l'aube de la Révolution française. On est en 1789. Pierre Manceron, cuisinier audacieux, mais orgueilleux, est licencié par son maître, le duc de Chamfort. La rencontre d'une femme étonnante, Louise, qui souhaite apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s'émanciper de sa condition de domestique. Il doit, dit-elle, entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous, le premier restaurant, une idée qui leur vaudra clients et ennemis. Voilà ce que tu disais, Damien, c'est le premier restaurant de l'histoire. En tout cas en France, hein, puisque là, on est en France. Alors, on a dans les rôles, on a des acteurs qu'on aime beaucoup. On a Grégory Gadebois, c'est lui le cuisinier. Voilà. On a Isabelle Carré, qui est Louise.
Voilà, sa compagne.
Oui. Oui.
Oui, c'est ça.
Oui, oui, tout à fait. Louise, oui, tout à fait. Et puis, on a Benjamin Laverne. Alors, lui, c'est le duc de Chamfort. Ouh, l'affreux bonhomme.
On va écouter la bande-annonce et après, tu continueras à nous en parler. Comme ça, ça va poser d'accord. Un peu le décor.
D'accord. Merci, oui.
Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux.
Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Manceron. Vos cuissons étaient parfaites.
Comment appelez-vous ces petits chaussons ?
Le délicieux.
Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons.
Il nous prend pour des gorées !
Excusez-vous.
Manceron !
C'est vrai qu'il était cuisinier ?
Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre.
Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti.
Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner.
Apprenez-moi, je suis sûre qu'il reviendra.
C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne.
Il faut partager cet endroit avec tout le monde.
Noble, bourgeois ou paysan.
Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise, un lieu de bouche.
D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolie réputation. Je parle de votre auberge jusqu'au château.
Ici, tous les clients sont ducs. Et tous les clients sont rois.
Le duc envisage de vous rendre une visite d'appétit.
L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes ? Vous l'êtes ?
Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer.
Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels.
J'exige que vous fermiez votre gargote.
Que fait le peuple ?
Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pendre.
Voilà la bande-annonce de Délicieux.
Ouais, on apprécie Vivaldi quand même, hein, finalement. Mais bon, c'est vrai que là, de Chamfort, là, c'est peut-être pas la pendaison qui l'attend, mais peut-être la guillotine. Sait-on jamais ? Oh, qu'il est désagréable. Ouf. Alors, c'est vrai, j'y pensais. Je le voyais monter à la guillotine. Alors, on a Guillaume de Tonquédec dans le film, Christian Bouillette, Laurent Bateau, Lorenzo Lefebvre, oui, Marie-Julie Baupe. C'est un casting extrêmement sympathique. Vraiment, on les connaît, on les apprécie, ils ont beaucoup de talent, voilà, on est contents. Donc là, en fait, ce qui est dit dans les commentaires, on peut dire, le monde est en train de changer. Ben oui, évidemment. Évidemment que le monde est en train de changer à l'aube de la Révolution. Et ça, c'est rien encore. Ce n'est que le début. Alors en fait, à la veille de la Révolution, donc il va changer la cuisine. Ce monde-là va changer la cuisine pour toujours. Voilà. Et puis cet homme-là, extraordinaire, il va inventer le premier restaurant, ce qui est quand même un sacré événement quand même. Surtout que depuis, les restaurants, ça marche bien, ça s'est développé partout dans le monde. Et je crois que voilà, tout le monde est toujours très content d'aller faire une petite pause dans un restaurant. Hein, c'est toujours très agréable, quoi. Alors en fait, le cinéaste a lu, il a fait beaucoup de lectures sur le XVIIIe siècle, et il est tombé sur l'invention du concept du restaurant. Alors comme il dit, effectivement, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, il ne s'était jamais posé la question de l'origine d'un lieu aussi couru, quoi, qui plaît énormément, qui est quand même patrimonial aussi. Hein. Alors il a fait des recherches. Et puis vite, très rapidement, il a compris que il tenait un sujet, il tenait quelque chose. Tout était là, la gastronomie, avec cette spécificité hexagonale qui consiste à prendre le temps de s'asseoir pour manger et partager un moment de convivialité, mais aussi le siècle des Lumières et la Révolution. Il y avait tout. En même temps, il pouvait tout mettre dans son film. Ça, c'était quand même très, très chouette. Alors voilà, en réalité, la naissance de l'établissement du film s'étale sur une quinzaine d'années. Hein. Et le premier restaurant date de 1782. Voilà ce qu'il nous dit, Éric Bénard. C'est en partie à Turgot, qui était le contrôleur général des finances de Louis XVI, qu'il doit son apparition, grâce à l'abolition des corporations et à la libération des échanges mis en place pour faire baisser les prix et juguler la crise. Voilà. Donc on apprend un tas de choses quand même avec ce film finalement. Enfin moi en tout cas, je sais pas toi Damien si tu savais tout ça, moi non.
Non, je savais pas que c'était aussi vieux, que c'était aussi jeune aussi. Je pensais que les auberges pouvaient être considérées comme des restaurants. Mais...
Ah oui, non, c'est incroyable. Hein. Ah non, lui c'est vraiment un restaurant, c'est-à-dire avec de la belle vaisselle.
La gastronomique.
Oui, et il dit que c'est pour tout le monde parce que pour lui, tout le monde est un prince ou un roi quand il vient manger chez lui. Donc c'est de la belle vaisselle, c'est des jolies tables, etc. quoi. C'est pas la gargote, hein, c'est le restaurant. Elle est là, la différence. Effectivement, les auberges dont tu parles, il y en avait énormément. À l'époque, il y avait des auberges pas... dans les relais de poste où les gens pouvaient changer leurs chevaux ou réparer le carrosse, il y avait une auberge, il y avait toujours une auberge, mais rien à voir avec le restaurant de cet homme-là. Voilà. Donc, alors Grégory Gadebois, qui incarne le cuisinier, ça lui va très bien, en fait, hein, physiquement, Gadebois, ça lui va. On le voit très bien en cuisinier, on l'imagine très bien, aimant la bonne cuisine, la cuisine fine aussi. Voilà. Le réalisateur a craqué d'ailleurs, quand il lui a donné le scénario, il l'a lu. Grégory Gadebois a tout de suite dit oui, et il était partant aussitôt. Et, le réalisateur dit qu'il aime la fragilité de cet acteur, sa douceur, cette part d'enfance qu'il garde, et ses mains. Dit-il, que j'ai beaucoup regardé parce que je savais que j'allais beaucoup les filmer. Des mains puissantes et délicates qui me permettaient à nouveau de traiter de la fragilité masculine. Oui, parce que le réalisateur est très sensible à ce thème, justement, la fragilité masculine. Les mains de Grégory Gadebois, c'est vrai qu'on les voit beaucoup dans le film. On voit déjà dans l'extrait, d'ailleurs, hein, qu'effectivement, il va filmer ses mains, bien sûr. Parce qu'un cuisinier utilise sans doute son cerveau hein, pour imaginer des plats, etc. Mais il utilise beaucoup ses mains également. Et oui, voilà. Donc, pour Délicieux, le réalisateur a bénéficié d'un budget très serré de moins de 5 millions d'euros. Non, mais c'est fou. Ce film avec un petit budget et 7 semaines de tournage seulement. Alors là, mes chéris, franchement, il vaut la peine qu'on aille le voir parce que quand même... C'est vraiment, non seulement c'est un bon film avec de très bons comédiens, mais en plus c'est mérité quand même. Hein. Ça veut dire que quand même aussi, on peut peut-être faire un très beau film avec un petit budget finalement. Est-ce qu'on peut se dire ça? ma foi.
Je pense qu'on peut se le dire,
oui. On peut se le dire.
Mais oui.
Délicieux.
Délicieux, donc. Et ça sort aujourd'hui à partir de 14h30. Vous pouvez le retrouver au Cinéma Rex de La Réole et toute cette semaine. Donc, ne le loupez pas.
Très bien. Notre partenaire à La Réole, qui passe toujours de très bons films, de toute façon. Hein, il faut vérifier. Ça.
Nous allons maintenant poursuivre avec un festival qui a été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes, film de Mathieu Amalric.
Oui.
Ça s'appelle « Serre-moi fort ».«
Serre-moi fort » et alors, il n'y a pas de tiret « Serre-moi hein ». Et c'est fait exprès, hein, c'est « Serre-moi », normalement il y a un tiret, on l'écrit avec un tiret. Là, il n'y en a pas dans le... On va savoir pourquoi. Enfin, c'est un drame français, donc. Oui, bah, Mathieu Amalric, oh là là, on le connaît comme comédien, oh. Très, très grand comédien. Il est réalisateur également, bien sûr, scénariste. Il est français, il a 55 ans. Il a 36 ans de carrière, surtout comme acteur, évidemment. Il a 151 tournages à son actif, quand même, dont 12 longs-métrages comme réalisateur scénariste et 8 courts-métrages. Ah, c'est quand même... voilà, il a eu 10 prix, 44 nominations... C'est quelqu'un qui s'épanouit vraiment très bien dans son travail. Hein. Est-ce que j'ai dit 1h37 le film ? Alors, il est présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021. Et c'est quoi l'histoire ? Ben, ça va être très court. Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Et alors, on a dans les actrices, on a l'actrice, une actrice luxembourgeoise qu'on connaît quand même, on l'a déjà vue, Vicky Krieps. Et puis, on a un acteur belge, Arié, ah bah c'est pareil, on le connaît lui, Arié Vorthalter, on l'a déjà vu dans pas mal de films. On a Anne-Sophie Bowen-Chatté, on a Sacha Ardilly, on a Erwan Ribard, Aurélia Petit, Juliette Benveniste. Et c'est titré « Un récit solaire ». Alors, en fait, effectivement, le Serre-moi fort, c'est tiré d'une pièce qui n'a jamais été jouée, de Claudine Galéa, qu'elle a écrite d'ailleurs cette pièce, elle l'a écrite en 2003. Enfin, il me semble, hein, je ne l'avais pas noté, mais il me semble que c'était 2003. Et voilà. Donc, le réalisateur, quand il a su que cette pièce n'avait pas pu être montée, il a découvert l'histoire quand même et il l'a dit, il nous dit, je l'ai lu dans un train, cette nouvelle, enfin cette pièce, et je me suis mis à chialer, hoqueté comme un bébé. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, j'allais dire jamais arrivé, si, mais pas depuis longtemps. Je devais me cacher sous ma veste. Voilà. Donc il était obsédé par le premier degré, comme un endroit que je ne saurais jamais atteindre. Et j'ai senti que dans cette pièce de Claudine Galéa, qu'elle avait cette pièce inventée, il y avait une brèche, un accès possible. C'est le mélo qui a agi comme un déclencheur. Ah oui, il a lu la pièce et il s'est mis à chialer. C'est fou, ça. Voilà. Donc, Serre-moi fort. Alors, bon, il s'est déjà, lui, plongé dans des films, hein, comme ça, des films... des mélodrames, voilà. Il y avait Corps à cœur, il l'a regardé, de Paul Vicali. Je rentre à la maison, de Manuel de Oliveira. Voilà, il a regardé un tas d'autres films, de Douglas Sirk, de Nicolas Ray. Des films, mais aussi il a regardé des films d'hallucination, plus mentaux. Voilà, des films de Buñuel, de René, d'Hitchcock. L'aventure de Madame Muir en particulier. Ah, très, très beau film celui-là aussi. Il faut l'avoir dans sa vidéothèque. C'est très beau, l'aventure de Madame Muir. Ah oui, vraiment. Très, 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 très beau. Et puis, voilà. Donc, il a regardé aussi... Ah oui, il a regardé, c'est vrai. Il dit qu'il a regardé La Passion de Jeanne d'Arc aussi, qui est sortie en 1928 de Karl Dreyer. C'est un réalisateur danois hein, qui a fait de très, très beaux films. Vivre sa vie de Godard aussi de 2016. Bref, des références quand même assez intéressantes. Hein. C'est quand même... voilà. Le Coco aussi, le film américain, l'a sorti en 2017. Puis la série... Ah oui, il a regardé la série Leftovers aussi. Enfin, ça veut dire Les Restes, d'ailleurs, qui est sorti en 2014-2017. Donc, il a drôlement bossé quand même Mathieu Amalric là-dessus. Quand même, hein. Il a décidé de traiter ce qui relevait du faux, de l'imagination sur le même plan que le vrai et le réel. Voilà. Alors, en parlant de cette femme, ce qu'elle vivrait et ce qu'elle projetterait serait la même chose, c'est-à-dire entre le réel et le rêve. Alors, bon, c'est... Ben, Mathieu Amalric, on le connaît quand même un peu. Hein. C'est toujours très recherché, tout ce qu'il fait. Même sa façon de jouer, d'ailleurs, est toujours très profonde. Alors, il nous dit repenser aux séparations amoureuses où tout se mélange. L'espace, le temps, le manque, la peine, les souvenirs modifiés, la jalousie, à imaginer l'autre. L'onanisme, faire revenir. On ne met pas du sépia ou des filtres pour bien dissocier le vrai du faux dans ces moments-là. Ça s'empile, ça se fragmente. Voilà, on est hyper réaliste dans les moindres détails. Ça fait du mal, dit-il, et ça fait du bien. Voilà, comme ça, il nous explique. Il n'y a pas de problème. Voilà, il a... Je crois qu'il a pris beaucoup de plaisir, en fait, à tourner ce film. Surtout qu'il connaissait un peu Vicky Krieps, le rôle principal, l'actrice luxembourgeoise. Et il était... c'était pour elle, quoi. Le rôle était pour elle. C'est une rencontre, voilà. Il dit d'ailleurs, en parlant d'elle, « Je n'ai jamais ressenti une gémellité pareille. » Voilà. C'est curieux. Il a ressenti ça chez elle. Ouais. Ma foi, Mathieu Amalric nous dit également qu'en un clin d'œil, qu'il y a un clin d'œil à la chanson « La nage indienne » d'Étienne Dao, dont les paroles sont « Serre-moi fort » avec un tiret à « Serre-moi fort ». « Si ton corps se fait plus léger, nous pourrons nous sauver ». Ça, c'est les paroles. Voilà. Alors, « Serre-moi fort », lui, il a justement enlevé le tiret. Voilà, il a écrit sans tiret, justement, parce que le premier degré a gagné. « Serre-moi fort ». C'est trois mots qui sont isolés, quoi, les uns des autres. C'est ce qu'il voulait. Serre, moi et fort. Pas attaché, isolé. Ça va avec le reste de l'esprit du film, en fait. Hein. Ça va avec le reste, quoi. Voilà.
Voilà pour Serre, moi, fort.
Un chouette film, quand même. Hein.
Et maintenant, c'est un film dont on entend beaucoup parler en ce moment.
Oui.
Avec un des acteurs en vogue de sa génération, Pierre Niney. C'est le film qui s'appelle Boîte Noire et qui est très intense.
Ah oui.
C'est un thriller, on dirait.
Thriller, drame français.
Thriller psychologique, ouais, ouais. Film de Yann Gozlan.
Ah oui, tout à fait. Attention, il faut s'accrocher quand même. Hein. 2h09, voilà, c'est un oui.
Est-ce qu'on écoute la bande-annonce pour se rendre compte de la tension dans ce film?
Oui, puis c'est très bien, parce que là, je viens de parler de Mathieu Amalric, voilà. C'était pas évident.
On va décrocher.
Ça va nous décrocher. Oui, voilà.
On écoute la bande-annonce de Boîte Noire tout de suite.
Merci, oui, ça va nous détendre.
Je sais pas si ça va nous détendre.
Non, enfin, peut-être pas, mais je veux dire... oui, enfin, le mot n'était pas heureux. oui, non, c'est pas...
Crash dans les Alpes, un Atrian 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données ACARS et à la trajectoire?
Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal.
Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires.
Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements.
C'est bon, c'est exploitable.
Atténue le moteur dans le médium.
Concentrez-vous sur ce qu'on entend.
J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée.
Vous avez intérêt à avoir raison.
Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800.
Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu.
Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences.
T'es en train de te monter la tête.
La vérité sur le crash, je la connais.
Vous êtes allé trop loin.
Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires.
Voilà la boîte noire. Donc, ouais, c'est pas vraiment la détente, le mot que je mettrais sur cette bande-annonce.
Non, le mot n'était pas heureux.
Très tendu.
Le mot n'était pas heureux. La musique est noire également, d'ailleurs. Il n'y a pas que la boîte. Là,
oui.
La musique. Bah, oui, c'est un thriller, un drame. On rigole pas trop. C'est pas du tout une comédie, quand même.
Donc,
on a dit que c'était Yann Gosselin.
Yann Gosselin, oui.
Qui est le réalisateur.
Alors, peux-tu nous présenter ce film,
oui,
maintenant qu'on a un peu compris le...
Yann Gosselin, oui, réalisateur, scénariste, adaptateur. Il est français. Il a 44 ans. Donc, il va encore faire plein de choses. Il a 14 ans de carrière, 7 tournages. Ok, c'est bon. Alors là, il a quand même un prix et 4 nominations quand même. Hein, ce film au Festival international du film policier 2021 Reims Polar. Et puis le prix du public pour le réalisateur justement Yann Gosselin. Et voilà. Et il a aussi un prix au Festival du film francophone d'Angoulême. Youpi, ce film a beaucoup plu en tout cas. Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris, avant son crash, évidemment, dans le massif alpin. Ça, c'est un point d'interrogation. Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Un autre point d'interrogation, est-ce une erreur de pilotage ? Est-ce une défaillance technique ? Est-ce un acte terroriste ? L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité. Et oui, là, c'est quand même... Alors, le BEA, on dit qu'il fait partie du BEA, c'est le Bureau d'enquête et d'analyse... Pardon, pour la sécurité de l'aviation civile. Donc, c'est une personne importante, là, qui va faire l'enquête. C'est quelqu'un d'important et qui n'a pas droit à l'erreur, quasiment, quoi. Donc, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, Pierre Ninet. Eh oui, ah là là, Pierre Ninet, bon, ben, quand même, c'est un grand acteur. Hein, y a rien à dire. Mathieu, il nous joue Mathieu. Et on a Lou Delage aussi dans le film. Et André Dussolier, on a reconnu son nom, sa voix, pardon, ça m'a un petit peu chamboulé, moi. On a reconnu sa voix dans l'extrait. Mmh. Il joue d'ailleurs, lui, il a le rôle du patron de la BEA, Philippe Régnier. Ouais. On a Sébastien Poudreau, on a Olivier Rabourdin, André Marcon, Guillaume Marquet, Anne Azoulay, Mehdi Djahadi et Aurélien Recoin dans les rôles principaux. Des acteurs qu'on connaît, hein. C'est un joli casting. Ouais, c'est un beau casting. Donc, il n'y a pas de... Oui, voilà, on les connaît tout à fait. Et on a... François Civil, quand même. Ah ben oui, François Civil. Bah oui, il ne faut pas que je l'oublie, lui, c'est un très grand acteur. Alors, donc, en fait, c'est titré « À couper le souffle », ça c'est pas étonnant, hein. « Excellent thriller paranoïaque, écoutez ». Enquêter, révéler. Ah ouais, c'est sûr que... Alors, en fait, Yann Gosselin, le réalisateur, il a voulu faire ce film parce qu'il est fasciné par le monde de l'aviation civile et ses mystérieuses boîtes noires. Mais on est tous fascinés par cette histoire de boîtes noires. Chaque fois qu'on en entend parler, on se dit, mais quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Est-ce qu'ils vont voir quelque chose ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? On est tous quand même un peu intrigués, hein, par ces histoires de boîtes noires. Souvent, elles sont placées à l'arrière de l'avion. Hein, c'est parce que c'est la partie généralement la mieux conservée lors d'un impact avec le sol. Alors, il en existe deux types. Il y a le FDR, c'est Flight Data Recorder, qui comptabilise les paramètres techniques du vol. Et puis, il y a le CVR, Cockpit Voice Recorder, qui enregistre tous les bruits et les échanges des pilotes dans le cockpit. Ça, c'est important à mon avis. Évidemment, on peut savoir par eux ce qui va se passer à ce moment-là, parce qu'ils se le disent, évidemment, ils en parlent. Alors, les premiers enregistreurs de vol datent des années 30. Ça, je ne savais pas, moi, que c'était aussi ancien. Je pensais que c'était beaucoup plus récent. Et toi, Damien, tu pensais que c'était ancien comme ça ?
Oui, les enregistreurs de vol, oui, je pensais que c'était à aiguille, même, au départ.
Ouais, ah ouais. Oui, quand même. Ah bah oui.
Oui, à partir de l'enregistrement.
Je voyais ça plus récent, moi, je ne sais pas pourquoi. Alors, à l'époque, il contenait les boîtes contenaient une pellicule photographique sur laquelle les indications des instruments de vol étaient projetées. Cette pellicule photosensible était enfermée dans une chambre noire appelée boîte noire. Voilà pourquoi ça s'appelle boîte noire maintenant, car elle était étanche à la lumière. Ce nom est resté, voilà, alors que les enregistreurs de vol aujourd'hui sont de couleur orange avec des bandes blanches réfléchissantes pour faciliter leur repérage parmi les débris. On apprend plein de choses quand même finalement là, pour ceux que ça intéresse, mes chéris, vous, si vous aimez, si vous êtes aussi intéressés par l'aviation civile et puis cette histoire de boîte noire, malheureusement, en cas de crash, évidemment, c'est là que ça devient, que la boîte noire devient importante. C'est toujours quand il y a un grand malheur. Voilà, il a donc, c'est quand il s'est documenté, le réalisateur, qu'il a découvert l'existence de ce bureau d'enquête et d'analyse, là, le BEA. Il ne savait pas, il ne connaissait pas l'organisme chargé d'enquêter sur les incidents et les accidents. Voilà. Alors, il a rencontré des différents acteurs de ce milieu. Il a rencontré des pilotes, des ingénieurs, des enquêteurs. Voilà. Et comme ça, il a réussi à... Il a pu écrire une histoire quand même qui tienne debout, hein, en rencontrant tous ces gens. Voilà. Et là, il est content de retrouver Pierre Ninet parce qu'il l'avait, en fait, il l'avait fait tourner dans Un homme idéal qui était sorti en 2015, qui est sorti, parce qu'il est toujours, on peut toujours le trouver en DVD, avec Anna Girardot et André Marcon. André Marcon est encore dans ce film, d'ailleurs, là, dans Boîte noire. Il y est aussi. Alors, il y avait Pierre Ninet et André Marcon. Et alors, il nous a donné un détail quand même assez amusant. Le nom du personnage de l'acteur dans Boîte noire, Mathieu Vasseur, est le même que celui du héros du thriller de 2015, c'est-à-dire d'un homme idéal. Il dit que Yann y tenait, peut-être parce qu'il voulait conserver avec moi, de film en film, quelque chose de l'essence de ce premier Mathieu. Je crois que c'est aussi un avatar de lui, un Antoine Doinel du thriller. Yann ne m'a jamais vraiment expliqué, malgré mes questions, mais j'aime bien. C'est à la fois très inspirant et un peu mystique. Oui, c'est curieux hein, que ce soit le même nom que dans le thriller de sorti en 2015. Bon, c'est comme ça. Voilà. Eh ben, au fait, le tournage a eu lieu au Bourget. Voilà, le film était tourné au Bourget. Bah, c'était pour le réalisme, bien sûr. Hein. Il y avait ça quand même, le souci du réalisme. Hein. Et puis parce que les locaux de la BEA, ils sont installés. Voilà. Et le salon de l'aéronautique s'y déroule. Et d'autre part, ce lieu a été très peu filmé au cinéma. Donc, il apporte une identité visuelle spécifique à ce film Boîte noire. Voilà. Voilà pour Boîte noire.
Très bien. Donc, Boîte noire, film donc de Yann Gaslan. Et nous allons maintenant poursuivre avec un film argentin,
oui,
d'Ariel Winograd. Ça s'appelle Le braquage du siècle.
Mais là, tu ne peux pas nous envoyer la bande-annonce parce qu'elle est en version originale.
Je peux l'envoyer, mais elle est en version originale. Voilà, donc, voilà. Ça va être plus compliqué pour la comprendre,
oui,
à moins,
oui,
qu'on soit hispanophone.
À moins qu'on ait une radio télévisée, mais ça n'existe pas encore, je pense, pour nous en tout cas. Voilà. Ça s'appelle, oui, Le braquage du siècle. D'ailleurs, le titre original, c'est, attention, hein, El Robo del Siglo. Ah, quand même, hein. Bon, bah, c'était pas trop compliqué à dire, hein. C'est pour ça que je frime un peu là-dessus. C'est une comédie, oui, c'est un policier, c'est argentin. El Robo del Siglo, c'est de l'argentin. Ça dure 1h54, cette comédie, c'est de Ariel Winograd, qui est un réalisateur-scénariste argentin. Il a 44 ans, 21 ans de carrière, 9 tournages à son actif. Et alors quand même, Le braquage du siècle, c'est le deuxième film argentin le plus regardé de l'histoire du cinéma argentin. Le jour, attention, pas n'importe quand, le jour de son ouverture. Deuxième film le plus regardé en Argentine. Ah, quand même, donc ça, il a attiré du monde. Alors, à 10 ans d'ailleurs, Ariel Winograd, là, à 10 ans, il savait absolument qu'il voulait faire du cinéma. Ah oui, quand même, hein. Il a étudié très tôt la réalisation et il a tourné très très tôt, quand il était étudiant, plusieurs courts-métrages. Ça a bien marché pour lui. Alors il a continué. Il a eu un gros succès en 2017 pour son long-métrage « 10 jours sans maman ». plus un grand succès argentin en 2017. Enfin, ça a été un succès partout. Et en Argentine, il y a quand même eu 1,7 million de billets vendus pour 10 jours sans maman. On a parlé de ce film à l'antenne. Je ne sais pas si tu te souviens du titre.
Oui.
Ouais, ouais. Il est sorti en France en 2020. On en a parlé, 10 jours sans maman. Absolument. Alors là, Le braquage du siècle est présenté au Festival du film de Malaga en mars 2020. Ça se passe en Argentine en 2006. Un groupe de cambrioleurs s'apprête à réaliser un des plus célèbres et des plus ingénieux braquages de l'histoire d'Argentine. Celui de la banque Rio, la succursale de la banque Rio, qui se trouve à Acassuso, qui est une province de Buenos Aires. Arcasuzo, ils ont eu droit à ça. Alors, on a dans les acteurs Guillermo Francella, Diego Peretti, Juan Alari, Pablo Rago, Joanna Francella, Luis Luque, Mariano Argento, Raphaël Ferro. Dans les rôles principaux, ce sont tous des acteurs argentins. Donc, c'est quand même... Alors... C'est tiré d'une histoire vraie, hein. Et comme souvent d'ailleurs ces histoires de braquage, hein, c'est souvent... Ça s'est passé le 13 janvier 2006 d'ailleurs, le vrai braquage. 6 hommes armés de fusils factices s'introduisent dans la banque Rio et prennent en otage ces 23 occupants. Et ils prennent 15 millions de dollars dans 147 coffres-forts. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert 147 coffres-forts. Et ils ont pris 15 millions de dollars. Ça rappelle un peu l'histoire de Spaghieri quand même. Hein. Surtout qu'ils
sans
vont trouver...
armes, sans violence.
Sans violence. Et surtout qu'ils vont trouver un tunnel, justement. C'est quand même... Hein, ça rappelle, hein, y a pas de problème, là. Alors, des centaines de policiers alertés à l'époque, hein, donc dans la vraie histoire, encerclent l'établissement, négocient la libération des otages et attendent près de 5 heures avant de donner l'assaut. À l'intérieur, aucun des otages ligotés n'est blessé. Lorsque les forces de l'ordre se dirigent vers le coffre-fort, elles découvrent les coffres vidés, un tunnel creusé donnant accès aux égouts, ainsi qu'un mot disant... Alors, je vais le traduire en français quand même. Dans les quartiers des Richards, pas d'armes, pas de rancune, c'est juste de l'argent, pas de l'amour. C'est écrit évidemment en argentin, hein. Et alors, derrière ce braquage du siècle, un homme du nom de Fernando Arroyo, dit El Maestro, qui avait un atelier de peinture à 10 pâtés de maison de la banque, il est professeur d'arts martiaux d'ailleurs, sans antécédent, judiciaire, inspiré par Robin des Bois. En fait, il a participé au scénario, ce monsieur, pour le film-là. C'est quand même... Alors, les voleurs de la banque Rio font la une des journaux et deviennent alors des stars en Argentine, acclamés par l'opinion publique. Et un peu Spaggiari, d'ailleurs, qui avait été aussi... les gens l'aimaient beaucoup, adoraient entendre parler de lui. Mais alors, eux, par contre, ils ont eu, ils n'ont pas eu la même chance que Spaggiari et sa bande. Ils ont été dénoncés par la femme de l'un d'entre eux, qui avoue tout à la police, sachant que son conjoint allait finir par la quitter pour vivre avec sa maîtresse. Les voleurs sont attrapés et passent environ 5 ans en prison. La plupart de l'argent n'a jamais été retrouvé et serait encore caché. Eh oui, une femme jalouse. Oh, c'est pas joli quand même ça. Hein. Alors, le braquage du siècle, le film est basé sur le livre « Sin armas ni rencores », qui est sorti en 2014 du journaliste Rodolfo Palacios, qui a travaillé avec le témoignage direct de la bande de Fernando Arroyo. Carrément, c'est quand même... Marc Spaggiari avait été interviewé plusieurs fois, d'ailleurs. Mais sous un déguisement différent, d'ailleurs, à chaque fois. C'était très... Voilà, alors, Fernando Arroyo, le cerveau donc, du braquage, a collaboré au scénario du film. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand même incroyable, ce truc. L'équipe a aussi fait appel aux membres de la brigade spéciale de sécurité Alcon. Pour le réalisateur, ça permettait donc d'avoir les deux versions de l'histoire, en fait. Il nous dit, bah oui, cela nous a aidé à raconter ce qui s'est passé à l'extérieur, un point de vue qui était peu développé dans le livre de Rodolfo Palacios. Cet élément nous a servi à créer de la tension. Ah oui, avoir l'écho des braqueurs et l'écho de la police. Deux versions. C'est pas... Eh bien, moi, si vous aimez ce genre d'histoire, mes petits chéris, franchement, celui-là, il vaut la peine. Hein. Ah oui. Ah oui, le braquage du siècle. Bon, en plus, il n'y a pas eu d'horreur, il n'y a pas eu de... Voilà, quoi. Bon, ils ont fait leurs 5 ans de prison. Bon, bah, ils ont payé la note. Bon, ils avaient des armes factices qui prouvent effectivement qu'ils n'avaient absolument pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Le braquage du siècle.
Le braquage du siècle, donc. Et après l'Argentine, nous revenons en France avec un film qui, pour moi, est le coup de cœur de la semaine.
La comédie, oui.
Ça s'appelle Les Méchants. C'est un film de Mouloud Achour et Dominique Bommard, issu du collectif Courtrage, mais dans les années 90-2000.
Ouais.
Et donc, mais Les Méchants, c'est... On écoute la bande-annonce.
Oui,
et,
vas-y.
Et après, on en parle.
Oui, merci. Oui.
Regarde ce que je te propose. Tu m'achètes cette console.
Je peux pas prendre des décisions sans l'aval de Patrick.
C'est qui, Patrick ?
La grosse moula, poursuivie par les méchants.
Attends, c'est ça, Patrick ?
Ouais, c'est ça, Patrick.
Tu m'engages ? Cette boutique, dans 6 mois, elle fait 8 étages à la Vivendi. Il y a des ascenseurs verticaux, latéraux. Je fais gonfler ton chiffre d'affaires. Tac.
On va pas le faire, hein.
Oh, l'ambiance de merde dans cette boutique, vas-y, bye, salut.
Oh putain, mais t'es carcéral, est-ce que tu bosses ici?
Ouais.
Ça? Tu veux ça?
De la boule de cristal, un artefact unique. T'as vendu la boule à 4 étoiles? Soit tu meurs, soit tu rends l'argent et tu rends la boule.
Mais la boule, elle est à moi.
En vrai, c'est la boule à Patrick.
C'est quoi, Patrick?
C'est ça, Patrick.
Vas-y, mais mets toi, Yam,
hein. C'est quoi qu'il boit, là, dans ce gobelet, là?
Caféine, cocaïne, l'extasie, un tout petit peu de Fanta citron et une lichette de Zombretto.
Ah, la boule!
Faire le bus.
Il vient d'y avoir, en direct, sur votre télé, un attentat envers mon intégrisme.
Bientôt, les Kardashians, ils vont venir me chercher pour m'amener sur leur planète natale.
T'as pas un peu d'eau, mec, s'il te plaît?
De l'eau?
Bah, sinon ça, là.
Ça, c'est 10,50€. C'est du jus antioxydant.
Voilà, ça sera de l'engrais.
J'allume la télé, pas sur la 1, il y a les méchants. La 2, il y a les méchants. J'ai Gilbert, même. Il y a Gilbert, là.
Putain, manquait plus que l'écran. Gilbert.
Ceux qu'on vient de voir sont des méchants barbus. Je suis désolé.
Ah, mais garde.
Ça a été filmé, là?
S'il vous plaît, vous pouvez arrêter de filmer?
Non. J'ai le droit.
Donc vous pensez que c'est grave ce qui vient de se passer ?
Les deux individus qui sont avec toi sont recherchés de partout.
Ce sont des armes de guerre qui ont été développées dans le futur.
C'est des méchants.
On parle vraiment d'eux là ?
Ça va les gars ? Super.
Qu'est-ce qu'ils ont acheté exactement ?
Un jus antioxydant.
Antioxydant.
Si tu veux vivre.
Ben non.
Les méchants, les méchants.
Voilà Les Méchants avec une tripotée d'acteurs issus ici notamment de la scène stand-up, on va dire.
Tout à fait.
Des humoristes actuels.
Oui.
Donc Les Méchants avec Mouloud Achour. Peux-tu nous présenter ce
comédie
film?
Comédie française, oui, ça dure 1h21. Ben, et c'est une co-réalisation quand même, ils sont deux. Hein. Il y a Mouloud Achour, ben, on le connaît lui quand même. Hein. Réalisateur, scénariste français, journaliste, animateur de télévision. Acteur, il est franco-algérien, il a 41 ans. Et ah oui, c'était son émission, c'était Clic, je crois, sur Canal+. Il était animateur, hein, c'est ça, voilà. Et puis l'autre, c'est Dominique Bommard, qui est un réalisateur, scénariste, monteur. Et il a 11 ans de carrière, lui, et 8 tournages. Par contre, il a surtout réalisé des courts-métrages. Là, pour les deux, c'est quasiment le premier long-métrage de fiction, hein, Les Méchants. Alors, d'ailleurs, si on veut regarder l'affiche, là, en fait, les 14 acteurs sont sur l'affiche. On voit leur tête sur l'affiche. Enfin, c'est des dessins, mais bon, ils sont sur... Enfin, non, c'est pas
c'est
des dessins.
C'est des photos dessinées.
Voilà, ouais. Merci, des photos dessinées. On les voit, les 14. Alors, on a Ludivine Sagné. Oui, oh là, très, très pleine de talent. Jolie et pleine de talent. On a Romane Fraissiné. Ah oui. On a Jimo. Jimo, bah oui, on le connaît, lui, Jimo. C'est Patrick.
C'est lui, Patrick.
Oui, c'est lui, Patrick, Jimo. On a Kayan Kojandi. On a Alban Ivanov. Bah oui, on le connaît aussi, lui. Mathieu Kassovitz, évidemment. Anthony Bajon. Sami Nasseri. Il y a Marva Laoud. Il y a Hakim Djemili. Il y a Fadili Oui, c'est ça, Camara, Luca Omiri, Redouane Bougueraba, pardon. Il y a Omar Sy aussi. Alors lui, il a le rôle, il fait un chauffeur d'Uber. Uber, le chauffeur Uber, là-dedans. Omar Sy. Ça fait marrant de le revoir un peu comme ça. Et donc, c'est quand même... Et c'est, en fait, c'est pareil, c'est comme pour le film d'animation sur le château, là, la vie de château. C'est suite aux attentats du 13 novembre 2015. C'est le même attentat, d'ailleurs. Hein. Voilà.
Donc. Et ça sort cette semaine en même temps que l'ouverture du procès de ces attentats-là.
Oui, ça a bien tombé, peut-être, je ne sais pas. Ça serait pas mal de... Comme ça, on n'oublie pas. On n'oublie pas dans l'immédiat. Alors donc, c'est bien suite à ces attentats que Mouloud Achour a eu la première idée des méchants. Il habitait à côté du Bataclan à l'époque, d'ailleurs, rue Jean-Pierre Timbaud. Et les locaux de son émission Clic, sur Canal+, aussi, dont on a parlé tout à l'heure, étaient proches des bureaux de Charlie Hebdo. Décidément, hein. Entre le 7 janvier et le 13 novembre 2015, dans cette période, dit-il, extrêmement sombre, le seul truc qui me faisait encore un peu rire, c'était d'observer la rue Jean-Pierre, ouais, Timbaud. Une rue qui commence dans le marais branché et qui finit en haut par une mosquée où souvent les barbus du haut de la rue avaient les mêmes looks que les barbus du bas de la rue qui sortaient de la Fashion Week. Là, dit-il, j'ai commencé à me dire... Et si deux barbus hipsters étaient pris par des terroristes ? Point d'interrogation, là.
Pour des terroristes ?
Oui, pardon, étaient pris pour. Bah oui, qu'est-ce que j'ai dit par ? Bah oui, du coup, je suis lancée dans le terrorisme, moi. Oui, étaient pris pour, oui. Mais on s'est souvent posé la question, d'ailleurs, plein de gens, à mon avis. Hein. On en a souvent parlé de ça. De ne pas confondre, les terroristes et ces pauvres gars-là qui sont barbus et qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Oui ? L'idée, dit-il, des termes à clic et tout le métadiscours sur le spectacle, la musique, la culture, tout ça est né à ce moment-là, quoi. J'avais envie de me demander comment on cristallise cette époque où, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le problème n'est pas que les valeurs sont inversées, mais que tout le monde est devenu le méchant de quelqu'un. Ah oui, il n'a pas tort, hein. Ah ouais. Eh oui. C'est quand même terrible, ça. Et oui. Et lui, Dominique Baumard, le co-réalisateur, nous dit qu'à la base, les comédies, c'était pas trop son truc, mais il a vraiment été séduit par la sincérité du projet. Quand il a rencontré Mouloud, on a parlé cinéma tout de suite, dit-il, et on s'est mis à travailler direct. On n'a même pas essayé d'écrire des blagues, on a juste laissé les personnages s'exprimer sincèrement. On se répétait sans cesse qu'on ne voulait pas faire de parodie. Il voulait, voilà, oh là là, Mouloud Achour souligne quoi, qu'il a fait un film sincère et sans calcul. Juste bon, bah, pour créer les personnages de Patrick et de Sébastien, on a regardé des youtubeurs, des mecs authentiques qui prennent leur pied à faire des lives de 4 heures sur Dragon Ball, et en cumulant 300 vues. Le film est très premier degré. Tous les films que j'aime sont premier degré, que ce soit des comédies, des films d'action, des dramas, ou même Citizen Kane. Voilà. Ah oui. Oui. S'il le dit.
Voilà donc.
Voilà.
Pour les méchants.
Il voulait aussi montrer, Mouloud Achour, que la banlieue, quand même, elle est multiple. Et qu'elle n'est pas condamnée à la victimisation. C'est important pour lui, ça. Ouais, c'est important.
Très bien. Donc,
à voir ce film,
les
justement.
Les méchants à retrouver au cinéma.
Pour les retrouver, tous ces personnages. En plus, ils sont sympathiques, quoi. On a envie on a envie de les connaître un peu.
Et nous allons maintenant continuer avec un film de Philippe Lacote qui s'appelle La Nuit des Rois.
La Nuit des Rois. Ouh, quel beau titre! C'est un drame et c'est fantastique aussi. Hein. C'est français, c'est canadien, c'est ivoirien et c'est sénégalais. Ça dure 1h33. Philippe Lacote, ben oui, réalisateur, scénariste, producteur. Il est franco-ivoirien. Il a 19 ans de carrière, 7 tournages à son actif. Et il a quand même 9 nominations à son actif aussi, voilà. Dont d'ailleurs son film, ce thriller-drame qu'il avait sorti en 2014 qui s'appelle Run, qui a été très, très plébiscité. Voilà, plébiscité. Le L, c'est d'abord. Donc, c'est un... Alors, la Nuit des Rois a un prix, quand même. Il a le prix Horizonti du meilleur film à la Mostra de Venise 2020. Il a deux prix. Il a le prix Independent Spirit Award du meilleur film international en 2021. Et puis, une nomination dans la section compétition Festival du film francophone d'Angoulême 2021. Voilà un film qui plaît. Alors, c'est quoi dans la Maca d'Abidjan? Alors, la Maca, c'est la maison d'arrêt de correction. On l'appelle comme ça, Maca d'Abidjan. L'une des prisons les plus surpeuplées d'Afrique de l'Ouest, vieillissant et malade dans cette prison. Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de Roman qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit. Eh oui, c'est quand même original. Alors dans les rôles, c'est Roman, on a Bakary, Kone, c'est un Ivoirien. On a Steve Tienche, c'est Barbe Noire. Il est pas mal d'ailleurs, il est assez... On a Digbe Jean-Cyril, Rasmane Ouedraogo. On a Issaka Sawadogo, Laetitia Ki, Abdul Karim Konaté. Et il y a Denis Lavant, mais on le connaît, Denis Lavant, qui joue le rôle de Silence, d'ailleurs. Et oui, Denis Lavant. Moi, je suis assez contente quand je le revois, cet acteur, dans des films. Quand même. Parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent et qu'on ne le voit pas suffisamment. Alors, en fait, le Philippe Lacote, là, il s'est inspiré du parcours de trois personnes. Voilà. En 2015, qui était devenue distante et de plus en plus incompétente, a été licenciée. 6 mois plus tard, elle décédait. Quelques jours après, l'un de ses amis proches a été obligé de passer son père en maison de retraite, alors que celui-ci venait tout juste d'avoir 60 ans. Décidément, c'est quand même l'un de ses amis proches. Il a connu quand même des gens qui avaient des problèmes quand même assez particuliers. Alors, il a été ému par un documentaire qui suivait un homme de 65 ans qui se rendait à la clinique Dignitas en Suisse en compagnie de sa femme de 40 ans pour mettre légalement fin à ses jours. Eh oui, l'homme du documentaire, ma collègue, et le père de mon ami étaient tous à des stades précoces de la démence, la même maladie ayant évolué de manière très différente chez chacun. Ces expériences m'ont donné envie d'en parler, d'en savoir plus sur ces troubles, ainsi que sur le débat vital autour de la fin de vie. Je parlais pas de La Nuit des Rois, enfin si, c'est le même sujet, mais je parlais de Supernova, là, hein, le film Supernova qui était sorti justement et qui parlait de... Et il s'est appuyé là-dessus, Philippe Lacote, justement, hein, pour son film. Ah oui, au fait, c'est un... Ah oui, ça, c'est important quand même, parce que, en fait, c'est un film écologique. C'est quoi un tournage écolo? Un tournage écolo, c'est par exemple quand on fait attention... On fait attention à tout, puisque le bilan carbone du secteur audiovisuel est très lourd. Il émet environ 1 million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année, soit l'équivalent de 410 000 Paris-New York. Et sans compter la fabrication des télévisions. Alors, le quart est directement lié au tournage, le transport, la consommation d'électricité sont les deux principaux responsables. Bien, ce film-là a fait attention à tout ça. La Nuit des Rois.
D'accord.
Oui, mais c'est quand même important, ça. Ça veut dire que ça peut se faire. S'il y en a un qui le fait, les autres pourront le faire aussi. Il y a des mesures très simples, en fait, hein, pour mettre en accord la production et l'environnement. Alors, c'est privilégier, par exemple, les visioconférences, afin de limiter les déplacements pour le transport des équipes. Par exemple, avoir plutôt recours aux voitures hybrides, particulièrement intéressantes en ville. Voilà. Et puis pour les tournages en extérieur, ben, qui demandent quand même l'apport d'un groupe électrogène, EcoProd conseille de questionner les municipalités sur l'existence de branchements forains. Voilà. Et sur un tournage aussi, on peut faire appel à un référent de développement durable. Voilà. On l'appelle d'ailleurs le gendarme vert. Voilà. Qui peut, lui, en amont, préconiser les économies d'énergie, quoi. Voilà. Tout ce qui est possible. C'est pas grand-chose de faire tout ça, finalement. Tous les metteurs en scène peuvent le faire, hein, à mon avis, hein. Enfin, voilà, c'est titré, La Nuit des Rois, une plongée brutale et poétique dans la plus grande prison d'Afrique de l'Ouest. Ah oui, là, c'est... Oui. On est quand même... On est pris en plein dans le truc, quand même. Hein. Ouais.
Donc, ça s'appelle La Nuit des Rois et nous allons maintenant continuer avec un film de Liesl Tommy qui s'appelle Respect. Respect.
C'est un biopic musical américain. Ouais. Donc là, bon, bah, c'est Liesl Tommy, oui, c'est une réalisatrice, hein, productrice déléguée. Elle est sud-africaine, américaine. Voilà. C'est la première femme de couleur à être nommée pour le Tony Award de la meilleure mise en scène d'une pièce et pour avoir dirigé la production à Broadway d'Eclipsed. Danae Gurira, c'est une pièce de Danae Gurira, qui est une actrice et une auteure américaine aussi. Donc c'est la première femme de couleur qui a eu le Tony Award. Beau ça. Respect, c'est qui au fait Respect? Ben, on parle d'Aretha Franklin. Le film suit son ascension. Voilà, de 1950 à 1970, de ses débuts difficiles d'enfant de cœur dans l'église de son père à sa renommée internationale. Respect est la remarquable et réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique. On a Jennifer Hudson, c'est elle qui joue le rôle d'Aretha Franklin. C'est une actrice américaine. Et alors, le père est joué par Forrest Whitaker, qui est donc le révérend Franklin. C'était Clarence, je crois, son prénom. Clarence Franklin, c'est son père. Et puis, on a Marlon Wayans. Alors, Marlon Wayans, c'est un acteur américain. Il joue le rôle de Ted White, qui a été l'époux d'Aretha Franklin entre 1961 et 1969. Puis, on a Andra McDonald aussi, qui est une actrice américano-allemande, qui joue la mère d'Aretha Franklin dans le film. Et Aretha Franklin jeune est jouée par l'actrice Sky Dakota Turner. En fait, elle est née en 2008, donc elle a 13 ans. Elle a l'âge du rôle. Elle était patente, la petite, d'ailleurs. Voilà. Alors, elle est née, Aretha Franklin, avec un don. Voilà. Elle est née pour devenir la reine. Elle a dû trouver sa voix. Voilà, pour avoir le respect, il faut se faire entendre. Elle a donc été obligée de... Eh ouais. Respect. Ben pour ceux qui aiment Aretha Franklin, mes chéris, si vous l'aimez, ben allez le voir, le film, quand même. Si vous aimez le personnage, si vous aimez évidemment sa musique aussi.
Respect, donc. Et nous allons maintenant terminer avec un documentaire français de Xavier de Lausanne.
Oui.
Qui s'appelle « 9 jours à Raqqa ».«
9 jours à Raqqa », oui. C'est un documentaire, oui. Alors, Xavier de Lausanne, c'est un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie. Il est producteur délégué également. Il est français. Voilà, il est abonné au documentaire. Hein. En 2020, c'était « La beauté du geste ». En 2016, c'était « Les pépites ». Voilà. En 2020, « La beauté du geste ». Je sais pas, on n'avait pas parlé de ce documentaire. Je ne suis pas certaine. En tout cas, c'est un long métrage, ça dure 1h30. Hein. Il a une sélection officielle à la fête du cinéma de Rome en 2020 et une sélection officielle au festival de Cannes 2020. C'est la sélection Label Cannes 2020. Alors, c'est une trilogie. Ça, c'est la première partie. C'est le premier film de cette trilogie, La vie après Daesh. Leïla Mustapha, 30 ans, ingénieure, c'est une femme, en génie civil, trois fois major de sa promotion, et la jeune mère de Raqqa, l'ancienne capitale autoproclamée de l'Est islamique en Syrie. Plongée dans un monde d'hommes, elle a pour mission de reconstruire sa ville entièrement détruite par la guerre, de réconcilier et d'y instaurer la démocratie. Une mission hors norme, oh oui. Une écrivaine française traverse l'Irak et la Syrie pour venir à sa rencontre. Dans cette ville encore dangereuse, elle a 9 jours pour vivre avec Leïla et découvrir son histoire. La trilogie, en fait, c'est sur la reconstruction du lien social en Irak et en Syrie après la guerre. Alors c'est titré « Engagé et puissamment féministe, une ode à la liberté ». Leïla Mustapha, c'est un destin hors du commun. Très, très beau film.
9 jours, alors, à Raqqa. Voilà, toutes les présentations de films d'aujourd'hui.
Oui.
Par Anne, sur Radio Entre-deux-Mer. C'était la conversation autour du cinéma.
Oui.
Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces émissions en podcast sur le www.re2m.com.
Voilà, bon ben, au revoir Damien.
À la semaine prochaine, Anne.
Merci pour ton accompagnement, toujours très agréable. Et puis, oui, à la semaine prochaine. Ben, mes chéris, passez une bonne semaine. Hein. Bon, on va avoir un temps à peu près mitigé, un peu de soleil, un peu de froid, un peu de chaud. Enfin, il y aura un peu de tout, hein, jusqu'à l'automne, jusqu'au 22. En tout cas, on se retrouve avec plaisir toujours. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre entourage, toujours aussi. N'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.